Bonjour, mon nom est Jean-Paul van der Linden et je vais vous accompagner dans cette leçon en trois parties sur la perception et les risques côtiers. Alors, je voulais faire un mot d'introduction de cette leçon globalement parce que on peut se demander, mais pourquoi parle-t-il de risque alors que l'on parle ici d'adaptation? Eh bien, l'idée, c'est de se dire que, en fait, l'adaptation, c'est aussi l'adaptation à des risques émergents, des nouveaux risques ou des risques différents. Et l'idée avec le changement climatique, c'est que par exemple, la fréquence des ondes de tempête va augmenter et donc le changement climatique va apporter une différence au niveau des risques. Alors cette leçon est en trois parties. La première partie va couvrir le cadre conceptuel, c'est celle qui est ici que vous regardez maintenant. La seconde partie fixera un cadre méthodologique et la troisième vous donnera un exemple. Mon espoir, c'est qu'ensuite, comme acteur de l'adaptation au changement climatique en milieu côtier, vous soyez capable d'appréhender la question de l'adaptation et des attitudes par rapport aux risques d'une façon qui soit respectueuse des valeurs, des ressources et de la compréhension paradigmatique de la zone côtière par les membres des communautés. Merci et bonne vidéo. Donc cette première partie de la leçon va porter sur le cadre conceptuel que nous avons développé pour analyser la question des risques côtiers, la façon dont les gens perçoivent ces risques et la façon dont les gens construisent socialement les risques côtiers. Alors, si je parle de risques côtiers aujourd'hui, c'est dans un contexte très spécifique, c'est le contexte de l'adaptation au changement climatique. Et vous verrez que ce cadre conceptuel que je vous présente dans cette première partie peut s'y appliquer. Ensuite, une présentation portera sur la méthodologie à mettre en œuvre et une troisième sur une étude de cas. Mais commençons par la partie plus théorique de ce que nous souhaitons faire. Alors, donc dans cette première partie, bien, je vais commencer par introduire la question. Je vais essayer de définir très rapidement, parce que ce n'est pas en cours sur les risques, c'est vraiment en cours sur la conceptualisation des perceptions en cas de risque côtier, mais je vais essayer rapidement de définir, de présenter, de sociabiliser avec vous quelques termes, risque, surexposition, attitude, représentation, perception, et vous expliquer pourquoi j'utilise ces clés d'entrée-là pour développer un cadre qui me permettra ensuite de vous montrer qu'on peut intervenir sur le terrain. Ensuite, je vais vous montrer comment on a fait pour développer un cadre intégrateur, parce que vous verrez que les questions de risque sont des questions qui sont très éclatées théoriquement. Et ce cadre intégrateur prendra la forme de ce qu'on appelle des revendications. Mais vous verrez ça en temps utile. Je conclurai, je vous donnerai quelques références avant de remercier les contributeurs à ce module. Alors, pour ce qui est de l'introduction, il me semblait important de vous dire où résidaient nos interrogations. Et il y a en fait ici, lorsqu'on parle d'adaptation au changement climatique, lorsqu'on parle de changement climatique en zone côtière, lorsqu'on parle de changement climatique tout court, eh bien, on a eu en France et en Europe, c'est l'objet de mes études de cas, deux choses qui nous ont interpellés très récemment. Et ces choses-là, elles sont très bien capturées par l'article de Caen et al., vous le trouvez dans les sources à la fin de la présentation, et par les histoires liées à la tempête Xynthia. Alors, sur l'article de Caen et al., eh bien, Caen et ses collègues, ce qu'ils ont fait, ils ont fait quelque chose d'intéressant et qui va nous éclairer sur nos questions, changement climatique, puis en découlant, adaptation, risque côtier, etc. Caen et ses collègues ont fait une enquête auprès des gens pour essayer de répondre à une question. Et cette question, c'était: quels sont les déterminants qui font que des gens pensent que le changement climatique d'origine anthropique est une chose avérée? Et les déterminants qui font l'hypothèse contraire, des gens pensent que les changements climatiques d'origine anthropique ne sont pas avérés. Et effectivement, c'est une question importante, parce que si on pense en termes d'adaptation, eh bien, il va falloir que les gens s'adaptent. Pour qu'ils s'adaptent de façon anticipative, il va falloir qu'ils pensent que le changement est en cours. Pour qu'ils pensent que le changement est en cours, il va falloir qu'ils pensent que le changement climatique d'origine anthropique est une réalité. Et donc, Caron et ses collègues ont fait une enquête auprès de 1500 habitants des États-Unis avec un questionnaire très quantitatif destiné à évaluer leur niveau d'éducation, leur compréhension des sciences, le fait qu'ils croient ou non au changement climatique, et puis toute une série de questions sur les valeurs qui les caractérisent et qui caractérisent leur groupe. Et ce que Caron et ses collègues ont essayé de tester, c'est de se dire, est-ce que ce qui détermine que l'on ne croit pas au changement climatique, c'est un manque d'éducation, ou c'est un conflit de valeurs? Et là, ce n'est pas un résultat stupéfiant pour les gens qui travaillent dans le domaine des perceptions du risque, mais c'est un résultat qui interpelle très fort beaucoup de chercheurs. Ce qu'on trouvait quand même réel, c'est que savoir que le changement climatique est une chose avérée ne dépend pas du niveau de formation des interviewés. En fait, ils n'ont réussi, à travers leurs analyses quantitatives, à n'établir aucune corrélation entre niveau d'éducation, niveau de compréhension des sciences, niveau de compréhension de la physique de l'atmosphère et croyance en le changement climatique. Par contre, et ça a un côté amusant, on se rappelle, c'est un échantillon aux États-Unis, ils ont réalisé que les gens qui se déclaraient votant, par exemple, pour la droite américaine, eh bien, ne croyaient pas au changement climatique, qu'un des déterminants de leur croyance au changement climatique ou non était les valeurs propres à leur groupe, les valeurs propres à leur orientation politique. De même, ils ont réalisé que dans leur échantillon, ce sont des régressions multiples, eh bien, les gens qui votaient à gauche, les gens dont les valeurs étaient des valeurs de gauche, qui définissent assez précisément dans leur article, eh bien, ces gens-là croyaient au changement climatique. Et donc ils arrivent à la conclusion que le déterminant de savoir que le changement climatique est une chose avérée, eh bien, ce déterminant n'est pas lié tant à l'éducation qu'aux valeurs qui caractérisent les personnes. Évidemment, pour un chercheur, c'est très très interpellant. Alors ils ont raffiné l'analyse, ils sont aussi allés voir au sein de gens qui votent de la même façon si l'éducation a une influence, et ils n'ont trouvé aucune indication à ce sujet. Donc, interpellation, si les gens doivent s'adapter, s'ils doivent avoir une attitude proactive face au changement climatique, eh bien, il faudrait qu'ils sachent que le changement climatique et ses conséquences ont un fort potentiel de se produire. Et apparemment, pour savoir cela, c'est une question de valeur et non une question de connaissance. La deuxième chose qui nous interpelle et qui rejoint celle-là, c'est la tempête Xynthia. Alors la tempête Xynthia est une tempête qui a eu lieu en Europe, en 2010, je pense, qui a eu des conséquences très importantes. Ce n'était pas une tempête exceptionnelle, mais elle a été combinée à une marée d'équinoxe, une marée très importante, et donc l'eau est montée à la fois en raison de la marée atmosphérique, l'apparition de la dépression qui attire la mer vers l'eau, et en raison de la marée liée au mouvement de la Lune autour de la Terre. Ça a eu pour résultat que certaines digues ont été dépassées, se sont cassés parce que mal entretenus et ont inondé des lotissements en générant un nombre important de victimes. C'est évidemment quelque chose de très grave, quelque chose de très effrayant, qu'aujourd'hui encore, en France par exemple, des gens meurent d'inondations, avec toutes les connaissances, avec tout ce qu'on sait. Du coup, le Sénat a lancé une mission d'information pour essayer de comprendre ce qui s'était passé avec la tempête Xynthia, et ils ont fait des travaux très longs, consulté énormément de personnes, et leurs conclusions sont multiples, mais celle sur laquelle j'aimerais insister ici, c'est que quand ça s'est passé, le gouvernement français de l'époque a proposé de faire ce qu'on appelait des zones noires, des zones où on ne pouvait plus reconstruire, et il y a eu contre ces zones, contre l'existence de zones avec interdit de construction en raison du risque d'inondation, du risque de décès des habitants, et bien il y a eu une levée de bouclier, et certaines de ces zones vont maintenant être réhabitées. C'est très interpellant à nouveau. Voilà des gens qui savent qu'il existe un risque qu'ils vont être noyés, mais qui demandent d'habiter là. Et ça rejoint un peu dans les grandes lignes clairement, c'est que le déménagement forcé pour eux n'était pas acceptable au niveau de leur valeur, même s'ils comprenaient qu'il y avait un danger. Et donc, la façon dont les gens perçoivent ce danger, le danger d'inondation, c'est quelque chose qui mérite exploration pour s'assurer qu'ils passent à l'action en termes d'adaptation. Alors, je vais préciser quelques-uns des termes que j'utilise ici, de nouveau très rapidement. Pourquoi est-ce que je parle de risque côtier ? Eh bien, parce qu'en fait, dans un des discours de l'adaptation en zone côtière, c'est l'augmentation de l'occurrence des tempêtes, des événements extrêmes, et donc avec une augmentation d'occurrence des événements extrêmes, les risques changent, la densité de probabilité associée aux événements extrêmes change, et donc c'est une question aussi de gestion des risques. S'adapter, c'est aussi une question de gestion des risques. Donc, face au risque côtier, nous constatons un discours, certaines communautés seraient, suite notamment au changement climatique, exposées au risque d'inondation au-delà de ce que la société souhaite, qu'ils se mettent en danger au-delà de ce que la société souhaite. Et ce qu'on va dire, c'est que cette surexposition, il y a le fait que des gens se surexposent à ce risque, c'est le résultat d'une attitude, d'un comportement. Et ce qu'on va dire encore, c'est que cette attitude, elle postule une posture collective. Les gens collectivement valident une forme de comportement, et que cette posture collective est le produit de facteurs collectifs et individuels, et que cela est le produit de ce qu'on appelle des représentations sociales. Les gens collectivement se représentent le risque côtier d'une certaine façon. Et ce dont on se rend compte, si je parle de surexposition, c'est que cette représentation n'est peut-être pas en congruence avec ce que les experts penseraient raisonnable ou raisonnable. Et en fait, toutes ces questions de risque, surexposition, attitude, représentation sociale est regroupée dans une littérature sur le risque sous le vocable de perception. Je ne vais pas aller dans l'épistémologie du concept de perception parce qu'on pourrait débattre du fait que c'est correct ou pas, mais les gens utilisent le mot perception. Et donc, ce que va dire ce discours souvent, pour simplifier ce que je viens de raconter, c'est que le discours sur la perception du risque souligne fréquemment le différentiel de perception du risque entre la population au sens large et les experts. Et souvent, les analyses de perception vont essayer de trouver les déterminants de ce différentiel. Donc voilà une première série d'articulation des mots que je vais utiliser dans le cadre du développement de ce cadre conceptuel. Mais si l'on veut analyser la façon dont les gens comprennent le risque, la façon dont les gens se positionnent par rapport au risque, on a un deuxième défi. Et ce deuxième défi, c'est le fait que le mot risque, dans le langage de tous les jours, est très polysémique. Il a plusieurs sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire, par exemple, que les gens vont me poser la question, en construisant ma maison dans cette zone inondable, je lui fais courir un risque. Et ce que ça veut dire, en réalité, je lui fais courir un danger. Et donc, pour certaines personnes, le mot risque correspond au concept de danger. D'autres gens pourront dire, quel est le risque de voir ma maison inondée si je la construis dans cette zone inondable? Et ça, c'est traduit par un sens différent. C'est, quelle est la probabilité de voir ma maison inondée? Et donc ici, on a un cas où risque égale probabilité. Et puis, d'autres gens pourront dire, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque en construisant ma maison dans cette zone inondable? Et là, c'est... à quelles conséquences je pourrais faire face en construisant ma maison dans cette zone inondable? Et là, le mot risque est égal qui vaut à conséquences. Et puis, d'autres gens diront quel est le risque associé à la construction de ma maison? Et là, c'est risque, quelle est l'adversité potentielle associée à la construction de ma maison? Et là, risque signifie encore autre chose. Et donc, si je m'attaque à mes questions de perception, il est très important de se dire que rien que le mot lui-même demande à être précisé, défini, et c'est ce que je vais faire pour, dans cette diapositive-ci. Et donc, je vais vous proposer une définition du risque, il y en a plusieurs, on va utiliser celle-là dans le cadre des travaux présentés ici. Alors, ce qu'on va dire, c'est que le risque est un modèle mental, une représentation intellectuelle, c'est un construit, qu'une partie de ce modèle est associée à une réalité, donc le risque n'est pas, c'est pas parce que c'est un modèle mental qu'il n'y a pas de réalité derrière, concrète, combinant un événement et la probabilité associée à cet événement. Donc là, on est au cœur, on dirait, de la tempête et de la chance qu'elle se produise. Et donc, une partie du modèle mental est liée à cette réalité que l'on anticipe, c'est ce qu'on va appeler un aléa. Mais dès que je pense à risque, dès que je parle de ma maison qui pourrait être inondée, etc., eh bien, en fait, cela veut dire que j'interprète l'aléa, que je l'interprète comme une mise en dangerosité d'un objet qui m'est cher. En fait, une partie du modèle mental va être associée à la façon dont un individu, un groupe d'individus, la société, interprète l'aléa. Et donc, une partie est associée à l'interaction entre l'aléa et ce qui est important pour l'individu ou le groupe d'individus. Et donc, on va dire qu'une partie de ce modèle mental est associée à un enjeu. On a un aléa, et cet aléa menace une valeur matérielle ou morale à laquelle les individus, la société, accordent de l'importance. Et donc, ce risque, ça va être la combinaison d'un aléa et d'un ou plusieurs enjeux. Donc, risque polysémique, risque pour nous, polysémique oui naturellement, parce qu'en réalité ça recouvre différentes choses, ça recouvre un événement, une probabilité, et un ou plusieurs enjeux. Et si vous repassez les utilisations ordinaires du mot risque, vous verrez que les utilisations correspondent à tout ou partie de la définition que je vous donne ici. Finalement, donc, risque. Objet construit socialement, risque objet polysémique, risque objet définissable, mais risque côtier, on a encore une couche qui va nous ennuyer lorsqu'on fait une analyse de perception, c'est que les zones côtières, en raison des densités d'utilisation, de la pluralité d'utilisation possible des zones côtières, en réalité des échelles différentes d'intervention sur la zone côtière, en réalité des échelles différentes d'influence sur la zone côtière, eh bien, ça veut dire qu'en zone côtière, ce que je veux dire, c'est qu'en zone côtière, eh bien, une grande diversité d'acteurs seront présents. Et cela génère trois nouveaux défis. Un défi qu'on appelle le défi de la diversité heuristique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent le risque différemment. La cognition par l'expérience, que j'appelle ici l'heuristique, eh bien, elle est diverse pour les différents groupes d'acteurs. Ensuite, puisqu'il y a différents groupes d'acteurs, eh bien, il y aura une diversité d'enjeux en termes matériels. Un pêcheur n'aura pas les mêmes inquiétudes pour ses bateaux, pour ses agrès, pour la ressource poisson, par exemple qu'un opérateur touristique qui sera inquiet pour l'érosion de la plage, pour l'état de son hôtel, etc. Et donc en termes matériels, les enjeux vont être très divers. Et puis, sachant que la zone côtière concerne à la fois un gouvernement central, un gouvernement, par exemple, provincial, un gouvernement local, un gouvernement régional, eh bien, chacun de ces échelles de gouvernement, chacun des formes de gouvernance, chacun des groupes humains organisés autour de la zone côtière, eh bien, auront peut-être des référents moraux, normatifs différents, et donc on aura une grande diversité d'enjeux en termes moraux. Et donc là, ça crée encore une couche. Si l'aléa est la combinaison d'un événement, de la probabilité associée et des enjeux, on se rend compte que la façon dont les gens vivent les événements va être très différente en fonction des personnes, et que les enjeux, tant en termes matériels et moraux, vont être différents. Et donc, l'exploration du risque, des perceptions des construits sociaux en zone côtière, eh bien, va nous poser des défis d'intégration de visions différentes. Et donc, le traitement du risque en zone côtière, c'est non seulement caractérisé par une incertitude sur la réalisation de l'aléa, mais également par des incertitudes sur sa nature, la façon dont elle est comprise, la diversité heuristique, sur la nécessité de sa prise en compte, est-ce que les enjeux matériels réellement valent la peine qu'on s'occupe de ça, et sur le type de mesure, la façon dont on va évaluer en termes moraux, notamment, eh bien, les options de réduction du risque. Et donc, ce que j'ai essayé de vous communiquer dans la partie qui vient de passer, c'est qu'on a en fait besoin d'intégrer, comme la gestion intégrée de la zone côtière, donc certains d'entre vous sont familiers avec le concept, eh bien, on a besoin d'intégrer des concepts, on a besoin d'intégrer des représentations du monde, on a besoin d'intégrer des cadres moraux différents pour pouvoir explorer les perceptions, les constructs sociaux. Et cette question, si elle est très vibrante, très importante pour les risques côtiers, eh bien, en fait, elle est explorée depuis longtemps pour beaucoup de risques, pour les risques industriels, pour le risque de la route, etc. Et donc, les gens se posent ce genre de questions depuis longtemps et ont trouvé une diversité de réponses et de champs théoriques. Alors ici, j'ai en vitesse quelques champs théoriques qui ont été utilisés pour analyser la perception du risque. Je vais passer très vite, ce n'est pas un cours sur la perception du risque, c'est un cours sur un cadre conceptuel que nous avons développé et testé dans le cadre de l'adaptation côtière. Alors, on va avoir une théorie qui va dire que par exemple, la surexposition au risque est due à un déficit de connaissances sur le fonctionnement du risque. La théorie du knowledge gap, c'est une théorie, Caron et Tal est un exemple qui a été réfuté, la connaissance ne suffit pas pour ne pas se surexposer au risque, et une absence de connaissance ne signifie pas qu'on se surexpose normalement au risque. Donc c'est une des théories. Une autre théorie, c'est une forme d'approche empirique théorisée dans une expérimentation pré-quantitative qui s'appelle la psychométrie, où on va essayer de voir qu'est-ce qui détermine que des gens s'exposent plus ou moins au risque. Une autre approche, c'est la théorie culturelle, qui se concentre sur l'idée que ce sont les référents culturels qui déterminent notre exposition au risque. Il y a une théorie plus méta, je vais dire, qui est la théorie de la gouvernementalité, qui est de dire qu'en fait, le discours sur le risque est un discours d'établissement d'un rapport de force, et que ce sont les puissants qui déterminent quel est le risque qui vaut la peine de façon à asseoir leur autorité, qui rejoint les questions d'économie politique, comment les rapports de force s'établissent autour d'une question risque. Et puis on a l'économie de l'incertain qui essaie d'explorer ça en termes de souvent monétarisé ou quasi monétarisé, avec des calculs d'espérance mathématique. Et puis on a une théorie de l'amplification sociale du risque, qui est de dire que lorsque le risque fait l'objet d'un discours, par exemple dans la presse, eh bien la société va recevoir ce discours d'une façon modifiée par la façon dont la presse le traite. Et donc on a une série de champs théoriques, et que l'on prenne, quand on n'en prend qu'un seul, et bien on n'a pas une vision d'ensemble de ce que ça pourrait vraiment être le risque. Et donc un auteur s'est amusé à développer un cadre intégrateur, il s'agit d'Ortwin-Rehm, qui a écrit un livre synthèse en 2008 que je vous encourage à vous procurer, il est dans les références à la fin de la présentation, où en utilisant tous ces référents, il a créé cette espèce de grande boîte et il dit en fait, la perception du risque, cette capacité à se surexposer ou à se sous-exposer au risque, est liée à des influences collectives et des influences individuelles, et des expériences individuelles. Donc, à gauche, pour moi, qui vous tourne le dos maintenant, les influences collectives, à droite, pour moi qui vous tourne le dos actuellement, expérience individuelle. Et ce qu'il dit, c'est qu'on a des étages, des boîtes nichées, comme des poupées russes, qui influencent de plus en plus la façon dont les gens perçoivent le risque. Il y a le contexte culturel, avec les institutions, culture économique, politique et sociale, pour ce qui est des influences collectives. Et puis, au niveau des expériences individuelles, on a l'identité personnelle, le sens que l'on donne aux choses, et puis les paradigmes que l'on a adoptés pour donner sens à notre vie. Et puis, dans le contexte culturel qui influence, il y a les institutions sociopolitiques qui elles-mêmes vont déterminer quelles sont nos valeurs dominantes et notre confiance d'un point de vue collectif, quelles institutions politiques et économiques sont en place et quelles sont les contraintes organisationnelles auxquelles on fait face. Mais dans les institutions sociopolitiques, il y a aussi des expériences individuelles, il y a nos intérêts, à nos priorités, à notre statut social et à l'influence que peuvent avoir les médias sur nous-mêmes. Ensuite, encore niché à l'intérieur, il y a les facteurs cognitifs affectifs, c'est-à-dire ce qui fait que nous, comment nous approprions l'expérience qui est la nôtre. Et donc il y a les connaissances de référence qui sont admises, il y a les préjugés collectifs, et puis il y a évidemment les croyances personnelles et notre affect, notre réunion. Et tout cela va déterminer, en fait, comment notre expérience nous permet d'appréhender la réalité pour, en termes collectifs et individuels, pour déterminer la perception de risque. Alors ce cadre intégrateur reste excessivement complexe. Et une des magies, en tout cas qui vient des travaux de Rennes, c'est qu'il y a en fait moyen d'un point de vue opérationnel de regrouper tout cela. Et c'est l'objet de la section suivante qui parle des formes de revendication. En fait, on a trouvé qu'en réduisant tout ce que je viens de vous présenter à trois revendications, eh bien, on peut arriver à intégrer l'ensemble. Alors, ce que l'on voit en fait, c'est que la grande boîte là, que je vous ai montrée revient à se rendre compte que la société choisit un aléa, en le choisissant elle devient un risque, et que ce processus de construction du risque, ça devient un risque identifié, on va s'en occuper, on va le gérer, on va s'en soucier, se résume à la combinaison d'un équilibre entre trois revendications que les gens vont poser par rapport au risque. Premier champ de revendication, c'est la revendication de pertinence. Les gens vont dire, ce risque, vont se poser la question, ce risque vaut-il la peine d'investir nos ressources? Et en fait, le premier investissement de ressources qui existe, c'est l'investissement des ressources cognitives. Est-ce que ça vaut la peine d'y penser? Dès qu'on fait ça, on déclare, dès qu'on pense à un risque, on déclare, ah, un petit peu de nos ressources cognitives, on peut les investir dedans. Donc, qui est revendication de pertinence. Mais ça veut aussi dire, par exemple, ce risque menace-t-il un objet suffisamment précieux pour qu'on s'occupe de le gérer? Les revendications de pertinence, certains vont appeler ça la dimension économique du risque, les soucis liés à l'économie dans le cadre du risque. Ce risque vaut-il la peine d'investir dans le risque? Mais ce n'est pas la seule revendication qui va apparaître dans le discours des acteurs suite à toutes ces influences qu'il y avait dans le grand tableau que je vous ai montré. Il va aussi y avoir des revendications qu'on appelle de causalité, c'est-à-dire les gens vont dire ce risque fonctionne comme cela, ce risque existe parce qu'il a telle distribution de probabilité, parce que l'eau va s'écouler de telle façon en menaçant tel objet. Et ici, les revendications de causalité, on pourra avoir des compréhensions différentes. Certaines personnes, par exemple, vont dire qu'il y a le changement climatique, et donc la densité de probabilité associée aux événements extrêmes va se modifier, et donc on doit faire attention. Et d'autres gens vont dire, oh non, le risque côtier va rester stable s'il ne croit pas au changement climatique. Tort, vous avez compris que moi je sais que le climat change et qu'il est d'origine anthropique. Mais donc, il y aura des gens qui vont faire des revendications de causalité, qui vont être différentes. Et puis, finalement, il y a aussi des revendications normatives. Et là, ça répond à cette question, les gens vont dire, mais gérer ce risque, est-ce que c'est en congruence avec nos valeurs? Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut gérer ce risque, ou le gérer d'une façon précise? Alors, typiquement, les zones noires, là, dont j'ai parlé pour Cynthia, c'est un peu cette histoire-là, les gens ne voulaient pas que l'on gère ce risque de cette façon-là, parce que ce n'était pas en congruence avec leurs valeurs. Et donc, là, l'attitude des gens, elle va être déterminée en fait par un équilibre dans notre cadre conceptuel entre causalité, norme et pertinence. Et selon un processus de négociation où chaque personne va pouvoir poser ses revendications normatives de causalité et de pertinence, eh bien, on arrivera à une situation où il sera plus ou moins aisé, plus ou moins raisonnable, plus ou moins facile de gérer le risque. En fait, selon l'endroit où on va se situer dans les négociations entre causalité, pertinence et normes en termes de revendication, eh bien, va émerger une attitude par rapport à un risque, et cette attitude, eh bien, elle va en fait, par notre comportement, nous donner une idée de la façon dont les gens perçoivent le risque. Il faut savoir que quand quelqu'un répond à un questionnaire, ce que c'est un acte. Parler d'un acte, produit d'une attitude qui leur est propre, qui est même liée aux perceptions. Mais le discours est un acte lié à une attitude. La perception, elle vient un cran derrière, et en fait, l'attitude est le produit de ces négociations. Et donc, ce que j'ai écrit ici, l'interaction des trois, causalité, normes et pertinence, ainsi que leur importance respective pour déterminer les attitudes des gens. Et ça, c'est le cadre conceptuel que nous avons développé pour tester des questions d'adaptation en zone côtière et qui fonctionne, c'est pour ça que je vous présente. Alors, cette première partie, je vais la conclure en essayant de vous de redire ce que j'ai essayé de dire en long. Nous avons présenté ici un cadre conceptuel destiné à permettre l'analyse des attitudes, des perceptions, des individus par rapport aux côtiers. Un cadre conceptuel que l'on voulait très opérationnel et donc qui se limite à l'analyse de trois objets, les normes, la pertinence et les compréhensions des causalités. Ce cadre est réduit d'une double dynamique, une analyse de la pertinence de la littérature sur le risque en général appliqué au contexte côtier et un exercice de théorisation ancré qu'on a conduit dans Civil européenne. Et ce cadre conceptuel a réellement été développé pour être appliqué dans un contexte d'action. C'est l'objet des présentations méthodologiques et des types de cas liés à la présente présentation. Et donc, la première étape ici de cette leçon en trois parties, c'est de s'approprier ce cadre conceptuel, mais il ne prendra sens qu'une fois que vous aurez passé la méthode et le reste. Alors, ici, il y a quelques références, qui sont les références centrales qui nous permettent d'avancer dans ce cours. Une première référence qui est l'article de Caron et Al, je vous encourage à le lire. Le second document de référence, c'est le rapport de la mission commune d'information sur les conséquences de la tempête Cynthia, qui s'appelle Cynthia, une culture du risque pour éviter de nouveaux drames, qui est disponible sur la page web du Sénat en France. Puis on a le livre de Orpin Ren, Risk Governance Coping with Uncertainty in a Complex World. Je vous encourage vraiment à vous l'approprier si ce sont des questions qui vous intéressent. Et enfin, il y a le rapport plus technique qui est écrit par moi-même et mes collègues sur, qui présente des résultats beaucoup plus larges que ce que nous avons fait ici. Et je vais terminer par quelques remerciements que je dois faire à la fois pour des raisons d'honnêteté intellectuelle et pour des raisons de respect de mes collègues et des agences de financement. Alors, les éléments que j'ai produits ici, c'est un produit d'un travail collectif avec Juan Bastan de Marine Science for Society et Pedro Diaz-Simal de l'Université de Cantabrie, ainsi que moi-même du laboratoire Culture, Environnement, Arctique, Représentation, Climat. Les résultats présentés ici ont été obtenus dans le cadre d'un projet, TESEUS, Innovative Technologies for Several European Causes in the Changing Climate. Et le financement de ce projet a été fait par la Commission européenne à travers son 7e programme cadre pour la recherche et le développement technologique à travers un contrat de 4-4-1-4. Nous remercions au passage la Commission européenne d'avoir financé cela. Finalement, afin d'intégrer cette conférence dans le module VET plus large sur l'adaptation en zone côtière et changement climatique et élévation au niveau marin, qui est l'objet de notre présentation ici, eh bien, nous avons bénéficié d'un soutien des frais de mission dans le cadre du programme Bonus Qualité International, l'appel d'offres 2013-14 de l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Je vous remercie pour votre attention jusqu'à présent et vous demande de passer à la section 2, puis à la section 3. Merci. Voilà, vous êtes à la fin de la première partie de cette leçon en trois parties. Il est important que vous maîtrisiez les concepts liés au cadre conceptuel avant d'avancer dans la dimension méthodologique et puis dans l'étude de cas. Néanmoins, grâce au système vidéo, vous pouvez toujours revenir en arrière, en avant et découvrir les choses. Donc, sans plus attendre, je vous propose de passer à la seconde vidéo. A tout de suite !